Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Une semaine asiatique. Aujourd'hui, au Japon, les kamikazes.
Le cerisier est beau quand il fleurit. Mais la chute de ses fleurs est encore plus appréciée au Japon. C'est le symbole du courage, c'est le symbole des samouraïs et enfin celui des pilotes kamikazes.
Non seulement les officiers japonais, fait inouï dans l'histoire militaire, ont demandé en octobre 1944 à des pilotes de se transformer eux-mêmes en armes, mais bientôt, ils les ont encouragés à écrire des journaux et des lettres qui sont devenus un peu plus tard, au printemps 45, un genre littéraire. En voici une datée du 28 avril. Les fleurs de cerisier doivent être en train de commencer à tomber à Tokyo. Ce serait triste que je tombe moi-même avant les fleurs de cerisier. Tombez, tombez, fleurs de cerisier. Il serait injuste que vous continuiez à fleurir alors que je meurs. À la fin de la guerre du Pacifique, les chefs japonais ont abandonné plus d'un demi-million d'hommes de troupes qui ont divagué sur place, mourant généralement de faim. En Mandchourie, sans hésiter à perdre la face, ils en ont livré captifs à peu près autant aux soviétiques. Qui se souvient de ces japonais-là? Notre mémoire est sélective, qui a été préparée à privilégier quelques milliers de kamikazes. Mais de cette poignée d'hommes, notre souvenir est-il si juste? Peut-être avaient-ils moins le choix de leur destin qu'on ne l'a dit? Et l'extension présente, omniprésente du mot, jusqu'où est-elle exacte?
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Constance Sérigny, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Qui, avec son maître Pierre-François Souhiri, publie un beau livre chez Flammarion sur les kamikazes. Alors, je tiens une spécialiste de l'histoire et de la langue du Japon. Kamikaze, kamikaze.
Alors, en français, on dit kamikaze, c'est correct de dire kamikaze. En japonais, bien sûr, ce serait kamikaze, mais ce n'est pas le terme qu'on utilise pour parler de ce que nous, on désigne par kamikaze. On utilise plutôt le terme tokotai, c'est-à-dire force d'attaque spéciale.
Mais expliquez-moi, quand un gamin se fait exploser avec une ceinture d'explosifs sur un marché du Nigeria, au nom de Boko Haram, au Japon, de l'Est d'ailleurs en général, on dit kamikaze?
Non, on dit ni kamikaze, ni tokotai, force d'attaque spéciale. On dit jibaku, se faire exploser soi-même en japonais. Et pour les japonais, c'est d'une nature complètement différente à l'action justement des kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est surtout les Américains qui ont pris ce mot dans une acceptation plus générale d'attaque suicide. Pour les Japonais, les deux choses sont totalement différentes.
Pour les Japonais, il s'agit de militaires qui obéissent à des ordres. Alors vous allez nous raconter l'origine de l'histoire des kamikazes. Nous ne sommes pas encore au printemps 45 quand tombent les fleurs de cerisier, mais à l'automne 1944, nous sommes aux Philippines et il s'agit d'empêcher pour les Japonais les forces américaines de débarquer dans l'archipel. Ce serait la dernière étape avant l'invasion du Japon.
Tout à fait. Après avoir pris les îles Mariannes, les Américains sont en train de se diriger vers les Philippines. MacArthur avait promis en 1942 qu'il reviendrait reprendre les Philippines. Et donc, c'est une grande priorité pour lui. Il y a donc un énorme dispositif américain qui est préparé à faire un débarquement sur l'île principale de Luçon. Et pour les Japonais, c'est le dernier rempart avant l'Empire japonais. C'est la dernière zone qu'ils ont gagnée pendant la guerre qui reste encore à leurs mains. Donc par conséquent, il faut absolument défendre cette dernière ligne. Or, la marine japonaise a terriblement souffert pendant la bataille des îles Mariannes en l'été 44. Il n'y a pratiquement plus d'avions et il faut pour autant réussir à protéger la marine japonaise des forces américaines et surtout des avions américains. Donc il faut réussir à couler des porte-avions.
C'est là qu'arrive, mi-octobre, un vice-amiral, Onishi, innovateur, imaginatif, qui tient compte aussi d'un certain nombre d'exemples qui se sont présentés peu auparavant. Il y a un autre de ses camarades, un autre amiral, qui s'en était allé attaquer d'ailleurs de lui-même un porte-avions peu avant la visite d'Onishi.
C'est l'histoire du vice-amiral Arima. Donc le problème de cette histoire, c'est qu'il n'est pas impossible qu'elle soit apocryphe et qu'elle ait été inventée pour des fins de propagande, en fait. Mais l'histoire veut que le vice-amiral Arima lui-même aurait précipité son avion contre un porte-avions pour le détruire, c'est ceci avant l'arrivée même d'Onishi aux Philippines.
L'histoire veut que l'amiral Onishi est fait distinguer par un des commandants de la base de Mabalacat, un lieutenant qui est le premier chef d'escadrille kamikaze, Seki Yukio.
Tout à fait. Seki Yukio, qui à ce moment-là a 24 ans, est l'un des plus grands as japonais survivant, disons, parce que bien entendu, le taux d'attrition était très élevé. C'est un pilote extrêmement aguerri, c'est un lieutenant, et il est issu de l'académie de marine, c'est-à-dire l'élite de l'élite parmi les pilotes japonais. Et il est choisi naturellement pour participer à cette mission. Et d'après les rapports officiels, il est immédiatement enthousiaste, il est immédiatement touché au plus profond de lui et accepte immédiatement de diriger un escadron donc d'avions suicides.
Si l'histoire dit qu'il se comporte ainsi, c'est parce qu'un certain nombre de membres de l'entourage de l'amiral Onishi ont raconté à leur façon les choses dans les années 1950. Il y a en fait plusieurs interprétations possibles du comportement du premier kamikaze quand on lui annonce qu'il doit aller avec son escadrille se sacrifier.
Tout à fait. Donc à croire, en particulier Inoguchi qui était présent, et Nakajima, deux officiers présents qui ont raconté dans les années 50, il était immédiatement enthousiaste, les larmes aux yeux, aurait demandé à participer à cette mission. Mais on sait par d'autres sources, en particulier un journaliste de propagande qui s'appelle Onoda, qui a écrit après la guerre, que lui, ce n'est pas du tout ce que lui avait raconté Seki lui-même. Seki lui avait dit qu'en réalité, il n'avait aucune intention, lui, d'y aller, que s'il est forcé d'y aller, il y va, en fait, mais qu'il pense, en fait, que c'est une bêtise.
La pression du groupe est la plus forte. Mais si l'image des kamikazes est d'emblée si puissante, c'est qu'elle est aussi fabriquée par l'inquiétude, la psychose, parfois la panique des marins alliés qui considèrent les attaques comme des surprises absolument inouïes. Voici un témoignage maintenant du côté américain.
J'étais opérateur radio et je rendais le quart à 20h. Ce soir-là, j'ai entendu la musique de la polonaise qui venait du film projeté sur le pont du hangar. C'est un air dont je me souviens. J'ai descendu l'échelle et je me suis assis au dernier rang. Le film s'est terminé. Je me suis retourné. Tout ce que j'ai vu, c'est un grand éclair blanc et des gars ensanglantés étendus dans tous les coins. Tout l'arrière du bateau avait pris feu. Personne ne savait par quoi nous avions été touchés. Cette odeur, vous ne pouvez pas imaginer l'odeur des corps calcinés. Tout ce qu'on pouvait se dire, c'était « Heureusement que ce pilote ne s'est pas écrasé une soixantaine de mètres plus loin ». Il aurait liquidé la moitié de l'équipage. Les foyers d'incendie ont duré 4 ou 5 heures. Il a fallu attendre le lendemain pour pouvoir identifier les corps. Je me souviens de l'un des jeunes opérateurs radio qui a perdu la vie. J'ai écrit dans mon journal, John Seagrove a été tué et je ne connais même pas la couleur de ses yeux. Des choses de ce genre sont restées gravées dans nos mémoires.
Un officier américain, Verdolini, dans un documentaire de Peter Nicholson, qui a été diffusé notamment sur France 2 en 2007. Aujourd'hui, les historiens comme vous, Constant Sereni, sont tentés de relativiser l'efficacité des kamikazes. Mais pendant le conflit, et même dans les années immédiatement après, c'était pas le point de vue de l'US Navy?
Tout à fait. En réalité, si on regarde les chiffres, il est exact que près de 50% des dégâts infligé aux navires américains pendant toute la guerre du Pacifique l'ont été par des kamikazes. C'est énorme. C'est une arme qui a une très bonne efficacité, en tout cas du point de vue des Américains. Le problème, c'est que quand on l'observe du point de vue des Japonais, le taux de réussite par rapport au nombre d'avions envoyés est très bas. C'est entre 7 et 15% en gros, selon les périodes. Et donc, c'est une arme qui est efficace, certes, mais qui a un coût beaucoup trop élevé. Et c'est pour ça que l'efficacité est grandement à relativiser.
Oui, mais les Japonais cherchent à diversifier les armes. Alors, on a parlé des avions et de leurs pilotes subtils de la première période, du moment de la bataille des Philippines. Mais à mesure que le temps avance, on va trouver des systèmes plus simples, et pas seulement en l'air, parfois sous la mer, de même qu'il y avait eu des sous-marins de poche à l'époque de Pearl Harbor. Voici maintenant le temps des torpilles pilotées par des aviateurs.
Je supposais que cette mission avait quelque chose à voir avec les avions. Mais après avoir obtenu notre brevet de pilote, on nous a emmenés à une base de sous-marins. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ai compris ce que cette nouvelle arme pouvait être.
Un Kaiten mesure 14,80 m et il est propulsé par une hélice alimentée par un moteur à oxygène liquide. À l'avant, le nez contient l'ogive.
Le Kaiten emportait 1600 kg d'explosifs, c'est-à-dire 4 fois plus qu'un bombardier. Il fallait repérer la cible et se lancer dans sa direction à grande vitesse avec le détonateur à la main.
Témoignage d'Harumi Kawasaki sur la chaîne Planète. Donc c'est une torpille pilotée.
C'est une torpille. En fait, ce sont des torpilles. C'est le torpille modèle 9 modifié avec un espèce de caisson étanche et un système d'oxygène. C'est d'ailleurs le problème, c'est que ce sont des très mauvais sous-marins. C'est-à-dire que le Kaiten, en réalité, théoriquement, aurait pu avoir un effet dévastateur, mais beaucoup d'entre eux n'arrivent pas à leur but. Et malheureusement, il y a de grandes pertes pendant l'entraînement également.
Et il y a moins de pertes sur les nouveaux types d'avions, très simples, qu'on met au point quand il s'agit d'entraîner les pilotes qui doivent mourir dessus, parce que au fond, il n'y a plus besoin de pilotes subtils. Il faut maintenant des outils mécaniques,
non,
des hommes-outils.
En fait, on change. Les premiers kamikazes étaient des as, mais ensuite on se rend compte que gâcher des pilotes expérimentés qui seraient capables, par exemple, de combat aérien à une mission suicide, ça n'a aucun sens. Donc, on forme spécifiquement des très jeunes pilotes, des élèves pilotes, à l'attaque suicide. C'est-à-dire que tout ce qu'on leur apprend de faire, c'est suivre une escadrille, plongée, on leur apprend parfois même pas à atterrir, tellement leur mission, évidemment, n'implique pas l'atterrissage. Leurs avions ne sont même pas armés de mitraillettes, ils n'ont qu'une bombe qu'ils doivent armer au dernier moment et une cible qu'on leur désigne de l'extérieur. Le problème, c'est qu'il n'est pas si facile de plonger et que donc, il y a malgré tout beaucoup d'erreurs de pilotage de la part de ces pilotes.
Il y a quand même un avantage, vous parliez du gâchis. Là, on ne gâche pas les militaires de carrière.
C'est ce qui est assez glaçant quand on réfléchit à cette logique, c'est que finalement, ce sont donc les plus jeunes, les moins expérimentés, parfois donc ce qu'on appelait les garçons pilotes, donc de 15 à 17 ans qui sont envoyés dans ces missions parce que ce sont ceux qui n'ont aucune connaissance, aucune compétence.
Il faut les endoctriner simplement.
Il faut les endoctriner, il faut les motiver, il faut leur donner un minimum de connaissances pour qu'ils soient au moins capables de suivre, d'arriver à la cible, mais le plus important, c'est de les motiver à monter dans l'avion.
Et les kamikazes servent aussi à endoctriner le peuple au cinéma. Un film d'actualité sur deux, à peu près, les présente. On les voit défiler, on les voit boire le saké avant de partir. En fait, c'est souvent de l'eau.
Parfois, c'est de l'eau. En tout cas, on dit que c'est de l'eau pour pas qu'ils soient étourdis au moment du choc.
Les avions décollent, s'enfoncent dans les nuages et sur les images dans les cinémas. On entend en toile de fond la musique chorale bien spécifique, cet hymne non officiel de la marine japonaise. Si je pars en mer, je mourrai et mon corps sera mouillé par les flots.
Yeah.
Marche de l'Histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le cerisier est beau quand il fleurit, mais la chute de ses fleurs est encore plus appréciée au Japon. C'est le symbole du courage, c'est le symbole des samouraïs et enfin celui des pilotes kamikazes.
Au cœur du livre de Constance Sérénie et de Pierre-François Souiri, Les kamikazes chez Flammarion, la question du cerisier. Alors nous sommes fin avril, Shinzo Abe, le premier ministre japonais, est à Washington. Il va visiter le mémorial de la Seconde Guerre. Les fleurs de cerisier sont tombées, me disiez-vous. Vous êtes parfaitement informé, Constance Sérénie, à Washington, mais pas encore à Tokyo.
À Tokyo, je ne suis pas sûre encore.
Mais alors, le cerisier dans l'esthétique japonaise, c'est quand même autre chose que la rose dans l'esthétique des pays qui sont plus à l'ouest.
Le cerisier, donc symbole du Japon, a vraiment une esthétique très particulière parce que c'est lié à l'idée d'impermanence, de mort, de moment parfait qui doit disparaître, puisque le cerisier est le plus beau au moment même où il perd ses pétales, donc au moment où il est en train de disparaître.
C'est la mort légère sous un souffle.
C'est ça. Et donc du coup, le cerisier a toujours été le symbole de la jeunesse héroïque qui meurt au moment le plus beau. Et naturellement, la propagande s'en est grandement inspirée pour renforcer l'aura des kamikazes. Et immédiatement, y a associé cette image du cerisier. Les bombes humaines dont vous parliez plutôt, les Oka, qui sont des bombes volantes humaines, s'appellent fleurs de cerisier en réalité.
Mais vous dites que ce n'est pas des militaires de carrière, la deuxième génération des kamikazes. Ce sont souvent, vous insistez beaucoup là-dessus, des étudiants. L'université ne protège pas de la propagande parce qu'il y a tout un courant qu'on dit romantique dans les années 20 et 30, dans l'université japonaise, et qui vous explique qu'au fond, il n'y a pas d'individu, que nous sommes dans l'environnement naturel, comme le pétale de cerisier fait corps avec les autres pétales.
Et le romantisme japonais qui utilise le mot de romantisme, qu'il ne faut évidemment pas confondre avec le romantisme européen, s'accorde assez bien avec un certain type de rhétorique militariste, justement, puisque les grands sentiments sont exaltés, les symboles sont exaltés, la loyauté, l'individu, finalement, moins important que le sentiment, que la beauté du geste. Et on retrouve beaucoup ça dans cette propagande autour des kamikazes.
Mais l'université en a rajouté sur l'enseignement primaire et secondaire. Petite contribution aux polémiques incessantes en France sur les programmes d'histoire. Au Japon, là, avant-guerre, c'était formidable parce que tous les enfants devaient apprendre la liste des 123 empereurs dans l'ordre.
Tout à fait. Alors, surtout à partir de 1937, quand en fait... Araki Sadao devient ministre de l'Éducation, un programme d'endoctrinement est mis en place dans les écoles avec des cours de morale qui insistent beaucoup sur cette notion de loyauté à l'empereur et de militarisme. Tous les exemples dans les livres de lecture et ainsi de suite, c'est des histoires de soldats, de sacrifices et tous les matins... On rend hommage à l'empereur. Le cours d'éducation physique est remplacé par une espèce de revue militaire.
Alors après, que peut-on faire de ce qu'on a fait de vous ? De quelle liberté dispose-t-on ? Alors voici des témoignages de kamikazes. Vous noterez que l'un d'entre eux, il a dû faire des études supérieures. Enfin, il a survécu, je ne sais comment. Il est francophone.
Masaaki Tokito a 25 ans. Sa famille descend d'un célèbre clan samouraï. Il a le sens du devoir et de l'honneur. Son frère aîné est déjà mort au champ d'honneur. La sœur de Masaaki se souvient combien il était déchiré entre son amour pour sa famille et son devoir envers la patrie.
Par égard pour nos parents, ils voulaient choisir une voie plus sûre, mais ils se sentaient coupables de se protéger en ces temps de crise nationale. Masaaki disait, ce n'est pas le moment pour un homme de ne penser qu'à sa propre vie.
Avant de monter sur mon appareil, j'ai touché le sol, ça c'est pour la dernière fois. et j'ai gardé une petite élève, etc. Même si cette petite élève a le droit de vivre, de survivre après moi, mais moi, ce sera fini. Je suis monté sur l'appareil. Je me suis efforcé de me rappeler les visages de mes parents, de ma petite fille, etc. Mais ça a été tout à fait impossible. L'éditation m'a empêché de me souvenir des visages de mes parents.
Les lettres aux familles, c'est devenu un vrai genre littéraire. Il y en a certains au Japon qui pensent qu'il faudrait les inscrire au patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Mais sans aller jusque-là, comment peut-on les analyser, ces lettres innombrables ?
Alors il y a deux types de lettres, en fait, parce que de toute façon, les kamikazes étaient tenus d'écrire des lettres avant de partir. L'armée leur demandait. Mais ces lettres-là étaient lues par la censure et étaient écrites sous le regard des supérieurs. Donc, les kamikazes, en général, y expriment des sentiments assez banals de patriotisme, d'enthousiasme. Ils n'avaient pas vraiment le choix d'écrire autre chose. Parfois, ils écrivent des choses plus touchantes, plus personnelles, mais ils ne peuvent pas vraiment aller contre l'idée générale du sacrifice. Mais certains sont parvenus, par des moyens détournés, à transmettre des lettres ou des textes à leur famille en échappant au regard des censeurs. Et c'est là que c'est très intéressant. Alors bien sûr, ce nombre est très faible. Et ça pose la question de savoir s'ils sont vraiment représentatifs par rapport aux autres. Mais là, on lit un tout autre discours, c'est-à-dire que souvent ils sont extrêmement pessimistes sur l'efficacité de leur mission. Souvent ils ne croient absolument pas à une victoire du Japon et ils disent souvent ne pas partir pour l'armée, pour leurs supérieurs, mais partir finalement parce que leurs camarades sont partis, parce qu'ils ne voient pas d'autre issue, parce qu'ils se disent au moins comme ça je décide de ma mort, mais pas vraiment par conviction, par fanatisme, comme on a voulu le dire.
Le souvenir des quelques milliers de kamikazes est très fort. Il doit vous arriver de penser, vous qui avez fait une thèse sur ceux qui ont été, parmi les soldats japonais, faits prisonniers en Mandchourie par les soviétiques et qu'on a eu tant de mal à rapatrier, vous devez penser que la mémoire est un peu sélective. Parce que de ceux-ci, on ne parle jamais.
La mémoire est toujours sélective. Les kamikazes, par la nature même de leur action, sont spectaculaires. C'est quelque chose qui frappe l'imagination immédiatement. Et pourtant, effectivement, comme vous le dites, il n'y a eu finalement que quelques milliers, 3500, ça dépend des chiffres, de kamikazes, ce qui est rien par rapport aux 2 millions de morts japonais pendant la Seconde Guerre mondiale et même par rapport aux 600 000 prisonniers de guerre faits par les soviétiques. Mais il y a quelque chose dans cette histoire qui frappe et qui reste dans les mémoires bien plus que d'autres.
Et ça a été fait dès le départ pour frapper l'humanité entière dans les siècles des siècles. Je parle de siècles des siècles. Il est un sanctuaire, le Yasukuni, à Tokyo, où se sédimentent sans distinction tous les morts de l'histoire japonaise depuis le milieu du 19e siècle. C'est l'incorporation des âmes des nouveaux défunts et des anciens. L'empereur Hirohito y allait régulièrement. Et les premiers ministres et les hommes politiques d'aujourd'hui.
Le nom des soldats tués au combat est inscrit sur de petites tablettes que l'on dépose dans un temple sacré, le sanctuaire de Yasukuni.
Le texte affiché à l'entrée du temple n'est pas choisi au hasard. C'est une lettre signée d'un pilote d'avion, un kamikaze, en 1944. « Je vais mourir », écrit-il à ses parents, « et je ne regrette rien ». C'est aussi un lieu de rendez-vous pour les nationalistes japonais nostalgiques de l'Empire.
Le premier ministre japonais Shinzo Abe a décidé d'annuler sa visite printanière au sanctuaire Yasukuni, perçu comme un symbole du militarisme japonais. 14 criminels de guerre japonais de classe A y sont célébrés. Les précédentes visites de Shinzo Abe ont déclenché une forte opposition de la part des pays voisins, en particulier de la part de la Chine et de la Corée du Sud, qui ont profondément souffert de l'agression brutale du Japon. Les analystes estiment que cette annulation est liée à la prochaine visite d'Abe aux États-Unis, ainsi qu'aux inquiétudes concernant les dommages potentiels que cela pourra engendrer sur le réchauffement des relations du Japon avec la Chine et la Corée du Sud.
La visite aux États-Unis du Premier ministre japonais, c'est aujourd'hui, et oui, dans la sédimentation des âmes, il y a aussi bien les soldats du début de l'Empire Meiji au 19e, les kamikazes de la Seconde Guerre, et puis ceux qui ont été reconnus comme criminels de guerre.
Et en particulier ceux qui ont été exécutés en tant que tels, en particulier ce bien connu Tojo Hideki, donc qui était Premier ministre pendant une grande partie de la guerre, et qui donc est criminel de classe A, c'est-à-dire considéré comme instigateur de la guerre d'agression contre l'Asie. Et c'est ce point-là qui pose le plus gros problème avec les pays voisins. Et c'est là qu'est le nœud du problème. C'est bien sûr ce que pensent la Chine et la Corée du Sud des visites des premiers ministres.
Le premier ministre, là, il dépose un arbre. Oui. Mais il est en même temps, avant d'aller aux États-Unis, en Indonésie, et il exprime des profonds remords. C'est un peu aléatoire ou contradictoire, sa position.
Sur son discours au Japon a une tendance en ce moment à se raidir et à prendre des tournures qui sont franchement inquiétantes. Il a parlé de l'armée japonaise. Or, ce n'est pas un terme qu'on utilise normalement pour les forces d'autodéfense. Il a dit notre armée, l'armée de notre pays, ce qui a beaucoup choqué au Japon. Mais en même temps, il semble faire des concessions à l'international et en particulier, il a parlé donc de regrets de ce que le Japon a commis. Mais son discours reste très ambigu et assez problématique.
On peut finir avec l'image du film de Kurosawa, où vous vous souvenez, le tunnel. C'est un officier qui avance et il est suivi par des hommes qui le rejoignent. C'est qui ces hommes ? C'est ceux qui ont combattu sous ses ordres.
C'est la question fondamentale de l'après-guerre, c'est que fait-on de ceux qui se sont sacrifiés ? Que fait-on du souvenir de ceux qui sont morts ? Quelle est la responsabilité de ceux qui ont survécu par rapport à ceux qui sont morts ?
Alors l'officier, il ne peut sortir du tunnel qu'une fois qu'il s'est retourné vers ses hommes et qu'il leur a demandé pardon pour les ordres qu'il a donné. Merci à vous, Constance Sérigny. Je rappelle votre livre avec Pierre-François Souhiri, intitulé tout simplement « Les kamikazes », c'est chez Flammarion. L'émission était préparée par Frédéric Martin et Ilinka Negulesco. Franck Olivard, la réalisation, c'était Jacques Sigal. Et à la technique, Jean-Noël Velan.